Radio Prague, les informations.
Démission du ministre tchèque de l'Éducation. Le gouvernement survit à une motion de censure. Le cabinet tchèque approuve le projet de donner le nom de Václav Havel à l'aéroport de Prague. Le ministre tchèque de l'Éducation, Josef Dobeš, a donné sa démission. Il explique son acte par la décision du gouvernement de réduire les dépenses du secteur de l'éducation de 2,5 milliards de couronnes. Le ministre qualifie ces restrictions de draconiennes et estime qu'elles entraîneraient la baisse des salaires des instituteurs à laquelle il refuse d'assister. La démission de Josef Dobeš a été déjà plusieurs fois demandée par l'opposition et dans les milieux scolaires. Le gouvernement tchèque a trouvé un consensus sur le gel des dépenses budgétaires. Le cabinet envisage d'économiser ainsi 23,6 milliards de couronnes, plus d'un milliard d'euros. Les restrictions concernent entre autres le budget du ministère de l'Éducation. Sans ces mesures, le déficit du budget de l'État pourrait atteindre 128 milliards de couronnes, 5,12 milliards d'euros. Le cabinet a été obligé de revoir à la baisse ses prévisions de la croissance économique en République tchèque. Le gouvernement de centre droit de Petr Nečas a survécu mardi soir à une motion de censure déposée par l'opposition de gauche hostile à sa politique d'austérité et à ses nouveaux projets en vue de redresser les finances publiques. La motion a été rejetée par 113 députés contre 85 voix de soutien. Pour être adoptée et aboutir à la chute du gouvernement, la motion aurait dû recueillir au moins 101 voix au sein d'une chambre basse de 200 sièges. Le gouvernement tchèque a donné son aval au projet de donner le nom de Václav Havel à l'aéroport de Prague. Selon la déclaration du ministre des Transports Pavel Dobeš, l'aéroport pourrait porter le nom de l'ancien président tchèque à partir du mois d'octobre prochain. C'est le réalisateur et producteur de cinéma Ferro Fenič qui a eu l'idée de donner le nom de Václav Havel à l'aéroport pragois. Il a lancé une initiative dans ce sens après la mort de l'ancien président en décembre dernier. La République tchèque n'envisage pas pour le moment de fermer son ambassade en Syrie. Elle pourrait même proposer ses services aux pays de l'Union européenne ayant retiré leurs diplomates de Dama à cause de la détérioration de la situation dans ce pays. Une déclaration de Karel Schroll du département de services de presse du ministère tchèque des Affaires étrangères. Dans une lettre adressée au président cubain Raúl Castro, l'évêque Václav Mali l'a appelé à libérer les prisonniers politiques de son pays. Les brimades infligées aux défenseurs des droits de l'homme entachent l'invitation faite par Cuba à l'intention du pape Benoît XVI, affirme l'évêque tchèque. Météo. Mercredi, jour de fête des Radek, le ciel est dégagé sur l'ensemble du territoire tchèque avec quelques passages nuageux. Les températures ont été comprises dans la journée entre 13 et 17 degrés pour les maximales. Jeudi, le ciel en Tchéquie sera clair à variable et les températures maximales se situeront entre 14 et 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. À la une de l'actualité aujourd'hui, le rapport sur le racisme en République tchèque portant sur la période 2010-2011. Il a été publié par le comité tchèque d'Helsinki à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La peinture indienne de Roman Kamesh, artiste tchèque installé en France, sont actuellement exposées à Karlovy Vary en Bohême de l'Ouest. Nous vous y inviterons dans quelques minutes. Et puis dans notre rubrique historique, nous parlerons d'une autre exposition, de celle consacrée au général Maurice Pellet, qui se tient jusqu'au 3 septembre au mémorial de Verdun en France. Bonne écoute. Ce mercredi 21 mars, la République tchèque se rappelle la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. À cette occasion, le comité tchèque d'Helsinki a publié son rapport alternatif sur le racisme en République tchèque portant sur la période 2010-2011. Si, comme il ressort de ce rapport, la situation des immigrés et des Roms a plutôt tendance à se dégrader en République tchèque, de nombreuses ONG peinent à sensibiliser le grand public aux pratiques discriminatoires. Ainsi, l'association Opona organise ce mercredi soir une soirée contre le racisme au palais Lucerna, en plein centre de Prague.
máte závažný cigánsky problém, ktorý treba čím skôr a radikálne riešiť.
C'est en réagissant à la diffusion rapide et facile des messages racistes et xénophobes sur Internet que le comité tchèque d'Helsinki a lancé sur les réseaux sociaux ce spot antiraciste. Il met en garde contre les comportements xénophobes qui trouvent en République tchèque comme ailleurs, dans le contexte de crise économique et sociale, un climat propice à leur développement. Le rapport tchèque, publié dans le cadre d'études annuelles du réseau européen contre le racisme, pointe notamment du doigt les autorités tchèques moins actives, semble-t-il, dans la lutte contre les discriminations qu'avant 2010. Nous écoutons Selma Muhic Dizdarevic, co-auteur du rapport. Ce qui devrait s'améliorer en République tchèque, c'est la mise en œuvre des dispositifs antiracistes déjà existants. Nous avons une loi antidiscriminatoire, mais elle n'est pas appliquée. La législation permet de punir plus sévèrement les crimes motivés par la haine raciale, ce qui n'est pas fréquent non plus. Mais ce qu'il faudrait surtout changer, c'est le comportement des gens. Ceux qui sont sensibles au danger de la discrimination de n'importe quelle minorité devraient manifester leur inquiétude, comme c'est actuellement le cas à Paris, où suite à l'attaque antisémite à Toulouse, tout le monde descend dans la rue et dénonce des actes de violence à l'encontre des Français d'origine africaine, des Juifs et des musulmans. Le comité tchèque d'Helsinki note avec satisfaction dans son rapport que différents mouvements s'opposant au racisme sont de plus en plus nombreux dans le pays. Autre constat positif, le ministère tchèque de l'Intérieur s'avère ces derniers temps efficace dans sa lutte contre l'extrémisme de droite. En revanche, les Roms demeurent ici les victimes les plus nombreuses de la discrimination, et ceci dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation. Leur mauvaise image dans la société serait en partie créée par les médias. Et si le comité tchèque d'Helsinki apprécie la nouvelle stratégie de l'État contre l'exclusion sociale, la politique réelle du gouvernement, prévoyant d'importantes restrictions budgétaires, y compris dans l'enseignement primaire, va à l'encontre de ses bonnes intentions. Un autre groupe vulnérable, les immigrés, aurait un statut plus compliqué depuis la mise en vigueur en janvier 2011 d'une nouvelle législation sur le séjour des étrangers en République tchèque. Celle-ci leur interdit par exemple de s'assurer auprès des compagnies d'assurance maladie tchèques. Ce mercredi soir se tient un concert contre le racisme au palais Lucerna sur la place Venceslas à Prague. Une exposition y sera également à voir jusqu'à fin avril. Pavla Kantnerová de l'association Opona qui organise la manifestation explique.
L'exposition présente sous forme de documents l'histoire des minorités roms et juives dans les pays tchèques depuis la première république tchécoslovaque jusqu'à aujourd'hui. Les gens savent plus ou moins quelle était l'histoire de la communauté juive avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ne savent plus tellement quelle était sa situation sous le communisme. Ils en savent encore moins sur la communauté rome, sur le fait que seulement quelques centaines de roms tchèques ont survécu à l'Holocauste. 90% des roms ont péri dans les camps nazis.
90% romů nepřežilo romský holokaust.
Toujours dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme, un film documentaire américain intitulé « Le dernier vol » de Peter Gintz est présenté en première au cinéma Lucerna à Prague, avant sa sortie dans les salles. Un film sur la vie et l'œuvre littéraire et plastique d'un jeune juif de Prague déporté à Terezin et mort à Auschwitz-Birkenau en 1944. Voici un petit extrait du film.
Heute weiß gar unsere Trude, wer ein Arier und wer ein Jude. Ein Jude, um es gleich zu sagen, muss sein Stern auf seinem Mantel tragen. Und einem so markierten Jud tut Leben nach Vorschrift richtig gut. Nach 8 Uhr abends das Haus nicht verlassen, sich tunlichst auf die Familie einzulassen, geistige Arbeit abzuschwören, keine deutschen Sender hören.
Indigo, safran, mousson, tel est le titre poétique de l'exposition des œuvres de Roman Kameš, installée à la Galerie d'art de Karlovy Vary jusqu'au 8 avril. Artiste tchèque installé en France depuis les années 70, sa peinture de Roman Kameš sont le résultat d'un changement radical de sa création à la suite d'un voyage en Inde du Nord. Il nous raconte cette transformation au micro d'Anna Kubišta.
Alors, au début, j'étais très influencé à Paris par la peinture minimaliste ou par l'art conceptuel. Et à la fin, je suis arrivé à un monochrome un peu grisâtre. Et je ne savais pas quoi faire. Et un ami qui allait photographier en Inde du Nord, notamment au Ladakh, il en a toujours parlé. Je comprenais même pas ce qu'il disait. Je me suis dit, tiens, j'étais partout. Mais vraiment, parce qu'il faut dire que depuis 1973, j'ai voyagé souvent en stop et j'ai vu tous les musées en Europe. Et donc, je me suis dit, tiens, j'irai en Inde. Et c'était merveilleux, vraiment merveilleux.
Quelle technique utilisez-vous justement pour ces tableaux?
Alors, moi, j'utilise plusieurs techniques, mais je suis resté fidèle à la tempéra. Surtout, et j'utilise un papier qui vient de Kalimpong, de l'Himalaya oriental. Et j'utilise aussi ce qu'on appelle Markalak au Ladakh. Et c'est un alluvion de l'Indus, une sorte d'argile que j'utilise comme fond. Également, j'enduis les papiers du Markalak et également des toiles. À part ça, je fais également des tableaux à l'huile, mais moins souvent.
Je crois savoir que vous avez aussi lancé des ateliers de peinture au Ladakh.
Ah oui, alors c'est une activité tout à fait merveilleuse. Moi, je faisais beaucoup de trek. Alors, je fais avec un montagnard, Richard Pastorel, qui habite pas loin de Grenoble. On a fait tous les treks, tous les cols au Ladakh et au Zanskar. Et quelquefois, en m'arrêtant, je me suis fait des petites peintures, des aquarelles, quoi qu'on est assez fatigué, parce que tous ces treks, on les faisait avec des gros sacs à dos, sans ânes, sans chevaux. On portait nos tentes et tout seul. Il y a eu des enfants de village qui étaient complètement fascinés par la peinture, mais complètement. Alors je me suis dit, une année, bon, j'ai amené des peintures et des papiers. Finalement, ça coûte assez cher, c'est pour ça que les enfants ne peuvent pas s'en procurer. Et j'ai commencé à faire des ateliers dans des écoles publiques ou dans des écoles monastiques, notamment chez des bouddhistes, mais aussi chez des musulmans chiites et chez des indiens shivaïstes pari.
Et vous faites ça depuis combien de temps?
Je le fais depuis 1996. Et là, je pars le 15 avril dans le Himachal Pradesh. Je vais travailler un peu avec des réfugiés tibétains. Mais là, je vais rester seulement 3 semaines parce que j'ai encore un autre projet dans un autre pays lointain et qui n'est malheureusement pas confirmé. Mais en été, je retourne au Ladakh de nouveau.
Donc vous partagez un peu votre vie entre la France, la République tchèque et l'Inde finalement?
Oui, surtout entre mon atelier à Alfortville et mon atelier au Ladakh chez le Lama Kunchok Pandey. En République tchèque, puisque je fais une petite édition, j'ai un très bon imprimeur, donc j'imprime des livres de bibliophilie.
Au mémorial de Verdun, en France, se déroule jusqu'au 3 septembre une exposition consacrée au général Maurice Pelé, un officier important de la Première Guerre mondiale, connu surtout en République tchèque et en Slovaquie, pour avoir formé la nouvelle armée tchécoslovaque en 1918. Personnage oublié en France, l'exposition permet de découvrir un homme aux multiples facettes, militaire, diplomate, mais également peintre. Cette redécouverte du général Pelé, on la doit surtout aux recherches inlassables menées par sa petite-fille, Isabelle Sandifort Pelé. Qu'est-ce que ce travail lui a apporté personnellement? C'est ce qu'elle a confié à Anna Kubishta dans Chapitre de l'Histoire.
Chapitre de l'Histoire.
J'ai rencontré mon grand-père. Mon grand-père est mort en 1924, donc j'avais moins 40 ans.
Oui, puis votre mère avait 2 ans à l'époque.
Maman avait 2 ans et ma grand-mère, donc Yara, s'est surtout préoccupée de survivre à ça. Et puis il y a eu l'histoire que tout le monde connaît, et puis 38, et puis la Deuxième Guerre. Et les dessins du grand-père, tout le monde a oublié, c'était pas le plus important. Ma grand-mère a survécu à mon grand-père pendant de longues années, elle est morte 40 ans plus tard.
Donc vous l'avez connue
J'ai connu ma grand-mère jusqu'à l'âge de 7 ans et elle a fasciné beaucoup de gens. Ceux des membres de la famille qui l'ont connue et qui sont ici, par exemple, aujourd'hui, ont une différence de ton quand ils parlent de Yara. Yara avait un charme, était originale, était slave, quoi.
Vous pensez que c'est ça, d'ailleurs, qui a séduit votre grand-père ?
Évidemment, évidemment.
Lui qui a été un célibataire pendant des années.
Il est tombé fou, amoureux de la bohème. Et puis, j'ai retrouvé beaucoup d'écrits que je n'ai pas mis dans tout ça, mais qui ont été mon moteur. Elle lui parle des promenades dans Marianske Lazne, elle chante. Il y a des tas de choses qui m'ont permis de comprendre l'épaisseur de cet amour d'où je viens et qui est passé par l'amour entre les deux pays, parce qu'évidemment, ils étaient tous les deux très patriotes et leur amour passait forcément par leur patrie.
On a commencé finalement par le côté un peu plus personnel. On va peut-être revenir un petit peu en arrière. D'où venait le futur général Pelé ? De quel type de milieu familial en France ?
D'une famille de bourgeois, de notaires, d'avocats, juristes de province, du nord de la France. Donc nord de la France en 1860, début de l'industrialisation, Napoléon III, puis Sedan. Pof. Tous les enfants de ces familles-là étaient éduqués avec l'idée qu'il fallait venger la France. Et Maurice Pelé a 7 ans au moment de Sedan, et donc il a été élevé, toutes les photos le prouvent, élevé pour devenir un soldat, pour servir sa patrie. C'était la seule chose.
Du coup, il fait polytechnique, alors c'est ce que disait justement...
Il fait polytechnique, comme ses deux frères, un frère avant lui, un frère après lui. Son père est commandant de l'école pendant quelques années après. Puis il fait l'école d'artillerie et du génie, où d'ailleurs il croise Joffre une première fois, puisque le thème de l'exposition, c'est sa relation avec Joseph Joffre. Et puis l'école de guerre, enfin toutes ces écoles prestigieuses qui ont été le berceau du haut commandement côté français pendant 14-18.
Alors justement, vous rappelez qu'il a été aux côtés de Joffre. L'exposition s'appelle « Dans l'ombre de Joffre ». Alors pourquoi « Dans l'ombre de Joffre » ? C'est clair que le maréchal Joffre était un personnage important, éminent de la Première Guerre mondiale. Et pourquoi également, justement, le général Pelé est-il moins connu, ou en tout cas méconnu en France ?
Premièrement, parce que Joseph Joffre ne supportait pas la concurrence. Que mon grand-père en était tout à fait contentait, qu'il ne, comme je le dis dans le film et comme beaucoup d'écrits, je ne dis que ce que j'ai lu, il était ravi de servir quelqu'un qu'il estimait profondément. Mon grand-père donc a eu son grand moment de gloire à Prague, dont il a été un peu forcé, qu'il a été un peu forcé de quitter. Et puis Constantinople, ça n'a pas été une grande victoire pour la France. Mon grand-père est mort là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit avant, le fait qu'on est en 1924, que maman est toute petite, que ma grand-mère était encore très jeune, personne n'avait... Il y a eu des tentatives de biographie. J'ai d'autres belles aventures à raconter. Je suis tombée sur un document récemment. Un officier de l'armée tchèque avait eu la consigne d'écrire une biographie de mon grand-père en 1935. Cet officier a commencé le travail. Je l'ai dans les mains, mais il ne l'a jamais terminé parce qu'il a été fusillé par les Allemands. C'est assez émouvant. Donc moi, j'ai pu bénéficier du travail préalable que cet officier a eu. Les lettres échangées avec ma grand-mère, qui lui raconte toutes ces choses personnelles de mon grand-père que je n'aurais pas pu deviner, elle l'a raconté à cet officier tchécoslovaque qui en a fait un livre.
Alors vous, évidemment, pour les Tchèques, le moment très important, c'est la formation de l'armée tchécoslovaque par le général Pelé. Il y est envoyé début 1919. Alors c'est étonnant, il est très peu de temps finalement, il est juste de 2 ans en fait. Quelle est sa mission sur place, hein, exactement ?
Quand il est arrivé en février, sa mission était d'aider cette nouvelle nation à, en donnant des conseils, puisque après la victoire, les nations qui étaient nées sur les ruines des empires avaient besoin de conseils de la part des pays victorieux. Et le général Pellé était aussi envoyé en Bohême pour sa bonne connaissance de l'allemand. Il s'est mis au travail et puis c'était pas très très facile parce qu'il y avait des éléments qui venaient des deux côtés, donc il a fallu qu'il tâche de composer. Et puis il y a eu l'invasion magyare, donc dans le sud de la Slovaquie. Là, comme il n'y avait personne pour s'y coller, Masaryk l'a bombardé généralissime. Je peux dire, puisqu'il y a prescription maintenant, on lui a demandé de partir parce qu'il était devenu trop tchécoslovaque.
C'est vrai.
Son gouvernement français avait estimé qu'il penchait trop pour sa nouvelle patrie.
En si peu de temps, c'est ce que je disais, ça. Il était là-bas 2 ans.
Est tombé fou amoureux de la Bohème, puis de ma grand-mère, mais je pense qu'il y a eu vraiment un vrai coup de foudre pour la Tchécoslovaquie. Oui.
Quelle vie a-t-il à Prague, puisque on le voit dans le film, à Paris, en tout cas en France, c'est un militaire, mais il est dans les cercles littéraires, dans les cercles artistiques, les cercles politiques. Hein, enfin, il est complètement intégré dans toute cette vie, j'allais dire mondaine. Est-ce que à Prague, il continue justement
À Prague, il s'intéresse à la culture. Il rencontre tous les artistes de l'époque. Un certain Siblik a écrit sur, a parlé de ses goûts littéraires. Et artistique, il a rencontré tous les artistes, et c'est comme ça qu'il a rencontré Zdenka Braunerova, parce qu'il s'intéressait à la musique dès qu'il avait 5 minutes. Il allait au concert, enfin, c'est aussi ça qui l'a touché, c'est l'art populaire tchécoslovaque. Ma grand-mère raconte dans ses mémoires quels étaient leurs goûts communs et comment elle le rencontre, et comment Zdenka a éduqué ma grand-mère, et comme il y a des petites très jolies anecdotes. Ma grand-mère qui est devant cette tante qui a 60 ans et ce monsieur respectable qui a presque 60 ans, et elle les voit discuter comme de tout, et de littérature et de toutes sortes de choses et de musique. Et elle se sent toute petite parce qu'elle a 30 ans, elle ne sait rien, elle sait dessiner et chanter. Et justement, et Zdenka lui dit maintenant, et alors Zdenka la fuble d'une couronne de fleurs et d'un costume slovaque, il dit maintenant tu vas chanter. Et c'est là que mon grand-père posé les armes.
Vous dites justement que sa future femme, donc Yara Braunerova, dessinait, lui aussi dessinait, c'est incroyable. On découvre à cette exposition dans le livre que vous avez publié, ses carnets de croquis, plus dans le film, il dessine tout le temps. On se demande presque quand est-ce qu'il avait le temps finalement, parce qu'on s'imagine que la vie d'un militaire est très prenante.
Bah, il avait peut-être pas l'iPod, la télé. Tout à l'heure, quelqu'un a dit quelque chose de très joli. Elle dit, à travers ses dessins, on voit comme il prenait le temps d'observer. C'est ça qui est extraordinaire pour n'importe qui, mais pour quelqu'un dont on peut imaginer qu'il avait aussi des fonctions. Mais c'était une époque différente, vous le savez, et puis pas mal de gens dessinaient. Peut-être pas aussi bien, mais beaucoup, beaucoup de gens dessinaient. C'était le moyen d'expression. La photographie était encore à ses prémices. Le cinéma, n'en parlons pas. Et puis il aimait dessiner.
Oui, puis on voit qu'il aimait dessiner, il faisait aussi des caricatures, et puis il épargnait pas les politiques. Finalement, il avait un sens de l'humour et de
Non, mais toujours avec tendresse quand même. Toujours avec, jamais vraiment méchant. Toujours avec une pointe de bien sûr, mais jamais méchant.
En quelques mots, est-ce que vous pourriez, c'est difficile de résumer un tel personnage, mais quelques qualificatifs pour ce personnage qui a été le général Pellé?
Un exemple.
C'était Isabelle Sandifort-Pelé sur Radio Prague. Ainsi s'achève notre programme en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt sur Radio Prague.